Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Air Dubois et c'est l'heure de l'interview avec, par téléphone, Laurine Arcel. Bonjour.
Bonjour.
Laurine Arcel, vous êtes avec nous pour nous présenter une soirée de concert polyphonie du monde à Capella et ça sera ce mardi 4 juin à 20h30 à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Et pour cela, vous êtes un quatuor, si l'on peut dire, 4 chanteuses donc qui se rencontrent pour entremêler vos voix.
Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Avec ce quatuor, on a fait le choix de reprendre les chants du monde, quasiment uniquement a cappella. On a quelques petites percussions sur certains morceaux, mais c'est essentiellement les voix qui sont vraiment mises au centre et là qui seront mises en valeur par l'acoustique du monastère. D'ailleurs, on donne assez régulièrement des concerts dans des lieux de ce type-là, parce que souvent, c'est une acoustique qui porte bien les voix a cappella.
Le quatuor est composé de vous, Laurine. Ensuite, il y a aussi Céline Koenig, Blandine Jutier, Béatrice Santos-Cotin. Chacune avec des provenances diversifiées, tant par la formation artistique, mais aussi par l'aspect du chant. Et pour cela, vous avez pu vous conjuguer pour proposer ce quatuor.
Ben oui, tout à fait. Alors, on s'est toutes les quatre rencontrées à l'école de musique de Villeurbanne, à côté de Lyon, donc l'ENM, et on était toutes les quatre élèves dans le département chanson. Mais on a toutes les quatre des horizons assez différents, des influences musicales différentes, on a eu des métiers et des activités aussi différentes avant d'être dans le spectacle pour certaines. Et voilà, bah c'est en se rencontrant dans cette école qu'est née cette envie de faire des projets ensemble. Et donc le quatuor Arbacanté existe depuis début 2021.
Arbacanté, le nom de votre formation, quelle signification a ce terme Arbacanté ?
Alors, Arba, c'est le chiffre 4 en arabe. Alors, je pense que ça ne se prononce pas exactement comme ça, ce serait plutôt Arba, je pense. Et même si aucune de nous n'est vraiment arabophone, mais j'avais quelques amis qui m'avaient donné un peu des notions. Et Kanté, donc la racine latine hein, du chant, de chanter. Et puis, on a laissé quand même un accent aigu sur le E de Kanté, parce que on avait envie que les gens le prononcent Kanté et pas Kant. Voilà, donc c'est un mélange et des langues. Et aussi de représenter toutes les quatre et qu'il y ait le mot chant dans le nom de notre groupe.
Cette formation propose des chants a cappella, donc les origines de ces chants sont plutôt cosmopolites ?
Exactement. On n'a pas forcément de région de prédilection, on aime vraiment piocher dans un petit peu partout dans le monde. Alors chacune a peut-être des chants, des sonorités qui vont la toucher plus personnellement, mais en tout cas, ça voyage pas mal. Alors justement, je vais pouvoir vous dire... on a aussi quelques compositions. Blandine Jutier a écrit 2 morceaux, notamment, un peu inspirés de chants traditionnels. Il y en a un, Anayema, qui est inspiré de traditionnels japonais, mais qui sont écrits en langue imaginaire. Alors, on a inventé un sens à ce qu'elle a écrit. Et puis après, sinon, dans le répertoire qu'on chante habituellement, il y a un chant traditionnel mexicain, la Llorona, qui est très connu. Il y a un chant traditionnel bulgare, Chopé Chopé. Là, c'est en citant un exemple, on en a quand même pas mal en tout, mais pour donner un petit aperçu, on a aussi quelques chants gospel. On a des gospels africains, en zoulou, en swahili. On a une berceuse biélorusse, on a un chant traditionnel géorgien. Et bien d'autres.
Cette manière aussi de vous présenter en quatuor a cappella, pour vous, c'est laisser la voix en premier.
Oui, La voix, alors effectivement, la voix avant tout, parce que c'est vraiment un vecteur d'émotion. Pour nous, c'est quelque chose de très touchant, les voix brutes comme ça, sans accompagnement. Et alors, ce que j'ai oublié d'ajouter aussi, c'est qu'il y a une présence du corps. Nous, on essaie de travailler à une mise en espace. Parce qu'on aime aussi ne pas être toujours fixe quand on chante, être dans le mouvement. Et puis aussi parce qu'il y en a une de nous quatre, Béatrice, qui est danseuse, qui a longtemps dansé aussi dans des compagnies et qui vient amener aussi cette petite touche corporelle. Donc, sur certains morceaux, on a fait le choix d'ajouter du mouvement, d'ajouter une mise en espace un peu différente. On n'est pas toujours toutes les quatre alignées côte à côte. Et il y a même quelques chants où on aime aller chanter un petit peu plus proche du public dans l'allée principale, par exemple, quand on chante dans une église, parce qu'aussi ça permet au public d'entendre les voix différemment, puisqu'on les entend d'un autre endroit, où parfois on est un petit peu espacés les unes des autres avec des personnes du public au milieu, et ça leur permet de distinguer les différentes voix, puisque quand on chante ensemble, parfois on n'entend que l'ensemble et l'harmonie des quatre voix, mais en fait d'arriver à distinguer, tiens là j'entends plutôt la voix grave, tiens j'entends plutôt la voix aiguë, c'est aussi quelque chose qui est très plaisant pour le public, et puis qui fait voyager aussi.
Justement, cette accaparation de l'espace pour vos chants, vous les préparez en amont de ce concert, de manière à trouver les endroits propices pour chacune de vous et pour chanter?
Alors oui, effectivement, on travaille beaucoup la mise en espace déjà en répétition. Tout ce travail corporel, on essaye parfois aussi de le travailler devant un miroir pour être, comme travaillent les danseurs, pour être vraiment synchronisé quand on veut faire des mouvements communs. Et aussi, effectivement, pour tester l'acoustique du son, pour tester. Alors quand on se rend sur un lieu pour faire un concert, on prend un temps de raccord qui est en général assez important quand même. On prend bien une heure et demie sur place, et pour se familiariser avec l'acoustique du lieu et pour repérer à quel endroit on va se placer, à quel endroit on va placer les quelques petits accessoires qu'on a. Alors, en parlant d'accessoires, on a quatre plateaux en bois qu'on a fabriqués nous-mêmes qui ne sont pas très larges, hein, c'est à peu près 90 cm de côté. Et en fait, ces quatre plateaux, sur certains morceaux, ils nous servent en fait de percussion corporelle. Donc, on se fait un petit peu avec les mains ou avec les pieds des petites percussions dessus qui accompagnent le chant. Mais c'est que sur certains morceaux. Et il y a d'autres moments où ces plateaux, en fait, ils sont un élément visuel. Donc, il y a un moment où on les empile pour s'asseoir dessus. On a choisi d'en faire un élément scénique. Finalement, c'est un des seuls accessoires et éléments scéniques qu'on a. C'est assez épuré, notre spectacle. Mais du coup, on a cet élément-là. Et ça, souvent, selon les lieux, il faut qu'on voit aussi où est-ce qu'on le place. On a une mise en espace un peu singulière et qui s'adapte au lieu, mais qui demande quand même, effectivement, des raccords en amont, avant un concert.
Pour cette préparation, vous avez le recours aussi d'une cinquième personne pour vous guider?
Alors, pas sur les représentations comme ça en église, puisqu'on est uniquement en acoustique, donc non amplifié, on chante sans micro. L'acoustique des églises permet quand même de porter les voix assez loin sans micro. Et on n'a pas de regard extérieur là sur les concerts, pas de mise en scène ou de personnes qui nous suivent. On n'est vraiment que toutes les quatre quand on se déplace pour les concerts. Après, il peut arriver qu'on fasse des concerts dans des lieux extérieurs ou des salles qui nécessitent l'amplification. Donc, dans ce cas-là, on travaille avec une personne qui fait la technique au son, soit quelqu'un qu'on connaît nous, soit le lieu. Et puis après, sur certaines sessions de répétition, ça nous arrive aussi de faire appel à des connaissances dans le milieu du spectacle qui peuvent nous donner un regard extérieur sur la mise en espace, la mise en scène, la gestuelle. Voilà, parfois c'est sûr que c'est important d'avoir un regard extérieur. Sinon, quand on travaille aussi avec beaucoup de vidéos, on se filme, on regarde, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre travail. Mais voilà, sur les représentations, en tout cas, on n'est que quatre.
Tout à l'heure, vous citiez Blandine pour son apport de création. Chacune de vous, qu'amène-t-elle dans cette formation?
Tout à fait. Chacune de nous contribue déjà dans la recherche des morceaux, dans le recherche de répertoire. On est toutes les quatre un petit peu dans très très attentive à aller chercher plein de sources et puis les proposer aux autres. Ensuite, sur le travail d'arrangement, quand on trouve des morceaux qu'on aime bien, on essaye de les repiquer, donc soit de répétition quand on peut les trouver, mais bien souvent, les chants traditionnels, il n'existe pas toujours de partition. Donc, on va nous-mêmes les réécrire sur partition pour pouvoir les travailler. Et ensuite, parfois, on les réarrange nous-mêmes. Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, d'un chant bulgare, puisque souvent, les chants bulgares, ils sont déjà écrits à plusieurs voix. Mais il y a d'autres chants. Je pense notamment à un chant très beau, qui est un poème de Khalil Gibran, qui a été mis en musique et connu par Férouz, mis en chanson. Et ben, il n'existait pas à plusieurs voix. Et donc là, on a fait l'arrangement pour plusieurs voix. Donc là, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a beaucoup d'arrangements aussi qui ont été faits par Blandine. Et puis, Céline et Béatrice, elles s'y mettent un petit peu. Donc, sur certains chants, elles vont compléter avec une proposition. Ah bah tiens, à tel endroit, là j'aimerais bien qu'on entende sonner telle voix. C'est un petit peu un travail complémentaire. Donc parfois, l'une propose un arrangement qu'elle a écrit, et puis en fait, en le chantant, en le travaillant ensemble, les autres proposent bah, peut-être de prolonger telle partie, de changer un peu la structure, de modifier un petit peu telle voix à tel endroit. Donc ça, c'est vraiment un travail collectif.
Tout comme l'opéra où le spectateur dispose du texte en livret hein, pour pouvoir comprendre le contexte, est-ce que la voix est avant tout un instrument plutôt mis en avant par rapport et donc dédié plus pour l'émotion que par la signification du texte?
Bah, c'est vrai qu'on a fait le choix aussi de chanter dans des langues étrangères. Peut-être pour faire plus entendre la sonorité et la mélodie avant la compréhension du texte. Et d'ailleurs, on ne donne pas de livret avec la traduction. Néanmoins, nous, on a connaissance du sens des chants qu'on chante. Donc, quand on en discute après avec le public, on peut tout à fait expliquer, voilà, ce chant parle de ça, ce chant raconte ça. Et puis, on essaye de l'exprimer aussi quand on le chante par nos émotions, par notre interprétation. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi le fait que pour certains chants, le sens du texte ne va pas être immédiatement accessible parce que c'est dans une langue que très peu de public connaît. Et en fait, c'est bien aussi de se laisser porter par l'émotion avant. Enfin, nous, c'est un choix un petit peu qu'on a fait. Après, on a quand même quelques chants en français et quelques chants en anglais. Donc, on sait qu'il y a des moments comme ça où il y a du texte qui raccroche au niveau du sens. Et puis, il y a quelques morceaux pour lesquels on a choisi de dire avant le morceau quelques mots en français. Il y a deux chants, on a pris un des couplets, on l'a traduit en français et on le dit à un moment donné dans le concert, on prononce un peu le texte pour préparer un peu, d'accord, ça va parler de ça. Et puis, hop, on se laisse entraîner par la langue du chant.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
Il y a aussi sur votre site une photographie où l'on vous perçoit dans un extérieur de ville. Est-ce que vous opérez également en extérieur, dans la rue par exemple, sur vos performances et associez même la danse d'après cette photographie? Est-ce que vous avez des spectacles aussi qui prennent l'espace extérieur?
Non, pas dans ce format de quatuor. On a choisi de pas faire de représentation vraiment spectacle de rue. Donc les fois où on fait des interventions en extérieur, c'est plutôt sur une scène avec des micros pour que la voix porte aussi assez loin. Sinon, moi j'en ai fait l'expérience dans un autre groupe vocal, chanter en extérieur non amplifié dans une configuration un peu art de rue, c'est assez éprouvant au niveau de la voix. Mais ce n'est pas inintéressant, mais en tout cas, ce n'est pas le choix qu'on a fait, nous, avec le quatuor. Après, on a chacune aussi différents projets artistiques, en plus du quatuor.
Pour annoncer cette soirée, vous nous proposez...
La Llorona, donc le chant traditionnel mexicain. Donc celui-là a été arrangé par Blandine Jutier. C'est un chant traditionnel mexicain. On l'a enregistré par nos propres moyens. Donc on a Céline... Qui a une cabine acoustique chez elle, donc avait installé ça parce que pour ses différents projets musicaux, elle s'en est servie. Donc là, on a enregistré nous-mêmes, on a fait nous-mêmes le mixage pour les voix et on a réalisé un clip l'année dernière, en 2022, un clip vidéo avec une amie Adèle Poirier qui a fait la prise, la captation vidéo et le montage. Donc là, effectivement, je vous ai envoyé l'audio et après, vous pourrez retrouver le clip avec la vidéo de ce chant. Il est accessible sur notre chaîne YouTube Arba Canté et sur notre site internet aussi Arba Canté. Donc pour ceux et celles qui seraient curieux de découvrir le clip vidéo, voilà, il peut se retrouver assez facilement sur nos réseaux. On a également Facebook et Instagram, mais en tout cas le clip il est sur YouTube et sur notre sur notre site internet si vous souhaitez découvrir ces belles images d'ailleurs qui ont été filmées au château, dans les ruines du château de Givors, une commune au sud de Lyon en direction de Saint-Étienne.
Arba Comté existe depuis février 2021. Est-ce que vous allez enregistrer un disque ?
Alors, peut-être. Alors, c'est en discussion. Effectivement, on a souvent des demandes de la part du public en fin de concert. C'est vrai que les gens aimeraient pouvoir réécouter les morceaux chez eux et ça s'entend complètement. Après, nous, on a quand même une préférence pour, du moins une priorité sur les concerts et le live, puisque c'est vraiment aussi nous ce qu'on préfère, chanter sur scène, être vraiment directement à la rencontre du public. Donc l'envie et l'idée d'enregistrer, elle est là, mais elle est un peu au second plan. C'est pas notre priorité, je dirais. Ça pourrait très bien arriver. Je précise aussi qu'on a un autre répertoire que depuis 2 ans là, qui est de chants de Noël du monde. C'est-à-dire qu'on est allé piocher aussi dans plein de régions du monde des chants traditionnels qui parlent alors soit de la fête de Noël, soit qui célèbrent l'hiver. Donc ça peut être aussi des chants païens. Et du coup, donc c'est un autre répertoire qu'on chante à la période du coup novembre-décembre et début janvier. Et ce répertoire-là, c'est vrai qu'on avait envisagé un petit peu aussi de l'enregistrer puisque c'est aussi nos propres arrangements. Et puis en fait, il y a beaucoup de demandes à la suite des concerts. Votre tête de Noël, on aimerait beaucoup pouvoir le réécouter. Donc c'est un projet parmi d'autres, mais il y a tellement d'envie et tellement de projets qu'on a envie de mener que ce sera peut-être pas celui-là qui va aboutir en premier, en tout cas, le projet de CD.
Par rapport à chacune de vous, vous avez aussi votre carrière personnelle et avec oui. D'autres artistes, j'imagine. Pour vous, la difficulté, c'est de pouvoir vous retrouver ensemble, parfois ?
Oui, il faut, c'est un petit exercice aussi pour faire, pour coordonner nos différentes activités, effectivement. On a chacune différents projets artistiques. On est un petit peu polyvalente, je ne sais même pas trop ce mot, mais pluridisciplinaire en tout cas. On a toutes différentes affinités. Donc, Béatrice est danseuse, chanteuse également. On est toutes les quatre. Blandine et Céline aussi sont chanteuses dans d'autres projets. Céline, elle est aussi chef de chœur. Et moi, je fais également de la marionnette en théâtre d'ombre depuis plusieurs années. Donc, c'est des spectacles jeune public en théâtre d'ombre, dans lesquels je chante d'ailleurs, du coup, vu que je suis musicienne. C'est assez pratique. C'est un agencement. Quoi. On essaye de se coordonner pour arriver à trouver, souvent, on s'organise pas mal à l'avance nos agendas, pour arriver à trouver les temps de répétition, les temps de représentation. Et puis géographiquement également, maintenant on n'est plus que deux à habiter vraiment à Lyon. Béatrice, elle est vers Grenoble et puis Céline, elle est à Crépol dans la Drôme des Collines. Donc on trouve des points, souvent on travaille plutôt à Lyon et de temps en temps on va répéter un petit peu aussi dans la Drôme. On arrive à agencer tout ça pour trouver les temps, pour se retrouver. En tout cas, l'envie est toujours là. Et puis après, des fois, on privilégie des périodes de plusieurs jours. D'autres fois, il va y avoir des semaines où chacune va travailler chez elle sur les morceaux, sur la communication du projet. Donc c'est une organisation. Mais on apprend aussi à faire ça en même temps. On est un peu multicasquette dans ce métier.
Les polyphonies du monde a cappella, vous disiez donc primer l'émotion. Alors l'émotion, ça peut être de la tristesse à la joie. Donc vous proposez tous ces aspects ?
Oui, parce qu'en fait, quand on va piocher dans les chants traditionnels du monde, il y a plein de raisons de chanter. On se rend compte que le chant, déjà, c'est quelque chose de très présent de manière... intrinsèque à l'humain depuis toujours dans à peu près toutes les civilisations du monde. Et souvent, elles viennent accompagner, le chant vient accompagner des moments marquants de la vie. Ça peut être des célébrations de naissance, de mort. Ça peut être des célébrations aussi même du rythme des saisons, du rythme de la journée. Il y a des chants qui parlent du travail. Il y a des chants qui bercent. Il y a des chants qui font la fête, qui célèbrent le plaisir d'être ensemble. Il y a évidemment des chants qui célèbrent la foi. D'une différente manière en fait que ce soit monothéiste ou polythéiste en fait c'est tout ça aussi qu'on traverse quand on va piocher dans les chants traditionnels et donc du coup même au sein d'un même chant on est traversé par différentes émotions différentes grandes thématiques un peu de l'humain qu'on retrouve dans le chant.
Les morceaux que vous retenez sont celles qui vous amènent énormément d'émotions. Comment se déroule cette sélection?
Bah, c'est vrai que c'est assez empirique, en fait. On écoute des morceaux, effectivement. Qu'est-ce qui nous touche dans un morceau? Parfois, ce n'est pas forcément évident de le verbaliser. Pourquoi ce morceau-là me touche? Est-ce que c'est la façon dont il est interprété quand je vais trouver des sources? Quand je vais écouter des originaux, est-ce que c'est le timbre de la voix de la personne? Est-ce que c'est la mélodie? Et puis parfois, certains morceaux, ils nous touchent chacune pour des raisons différentes. Donc, qu'est-ce qui guide le choix? Je pense qu'il n'y a pas vraiment une réponse valable pour chaque chant. Mais c'est assez différent selon les chants.
Mais vous êtes au diapason. Vous êtes au diapason, en quelque sorte, quand même, sur les choix.
Bah, en fait, des fois, il y a des morceaux, il y en a une première qui va proposer un morceau, les autres, elles vont peut-être pas forcément être emballées. Et puis, quelques mois plus tard, elles vont le réécouter dans un autre contexte. Et puis là, en fait, on l'entend différemment. Donc, en fait, Et puis, des fois, quand on entend un morceau, c'est pas évident tout de suite d'imaginer comment on peut le faire sonner à quatre voix et ce qu'on va pouvoir en faire dans notre interprétation à nous. Des morceaux, par exemple, qu'on entend avec une instrumentation derrière, bah, des fois, c'est pas simple de se dire comment ça peut rendre seulement avec des voix et sans instrument. C'est pas évident, mais des fois, il y a un petit cap à franchir et puis une fois qu'on arrive à aller vraiment dans le travail d'arrangement et de commencer à le chanter ensemble, là, ça commence à marcher. Et on n'est pas toujours toutes les quatre en pleine adhésion avec des morceaux. Il y a parfois des morceaux où il y en a une qui a dit, moi, celui-là, je l'aime moins, mais si vous avez vraiment envie de le faire, je vous suis. Et puis, de toute façon, je suis sûre que je me laisserai porter par le truc et puis que ça me plaira quand même au bout d'un moment. Mais c'est vrai que notre façon de ressentir les morceaux et l'émotion qu'on y met, elle va être différente parfois au fur et à mesure du travail, quoi. Ah, tout d'un coup, ben d'accord, j'entends des choses que j'entendais pas avant dans ce morceau, c'est génial, en fait, vous avez bien fait de le choisir. Donc on n'est peut-être pas toujours, c'est pas toujours la pleine adhésion unanime à quatre, mais parfois il y a quand même au moins deux personnes qui ont une sensibilité sur ce morceau à dire, là vraiment, moi la mélodie elle me touche, j'ai vraiment envie de vous le proposer, allez, on essaye d'en faire quelque chose, quoi.
Laurine Arcel, merci en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler donc du concert que vous donnerez le mardi 4 juin à l'ancien monastère de Sainte-Croix à 20h30. Je mettrai le lien du site du monastère sur la page de l'émission, ainsi que votre adresse internet également pour Arba Kanté. Oui. Et nous allons donc nous quitter avec ce morceau que vous nous proposez à l'écoute. Quelle signification pour vous est ce titre?
Alors, c'est très fort. La Llorona, c'est la pleureuse. Alors, en fait, ce chant traditionnel, il se décline en... je ne sais même pas combien de couplets il existe dans le monde. Enfin, il en existe vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un chant traditionnel qui a été énormément interprété. Nous, on a choisi chacune notre couplet en fonction du sens. Et le mien, je trouve qu'il a un lien avec la maternité. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Mon couplet, moi, c'est... On s'adresse à la pleureuse. Il y a un rapport avec le sommeil, c'est comme si on s'adressait à elle dans notre sommeil pour qu'elle nous réconforte. Mais moi, quand je lui demande de me réconforter, quand je chante mon couplet, à la fois je lui demande qu'elle me réconforte comme si c'était elle ma mère, et à la fois je lui demande de me réconforter parce que moi j'avance dans la maternité et que c'est pas toujours simple pour moi. Voilà, ça c'est mon interprétation complètement personnelle que je me fais du couplet que je chante dans ce morceau. Llorona, la pleureuse, dans le morceau, on se tourne vers elle pour qu'elle nous accompagne dans les moments un peu durs et dans les épreuves de la vie. Je trouve que c'est un petit peu ça qui ressort de ce morceau.
Laurine, Marcel, bonne soirée à vous.
Merci beaucoup. Eh bien, merci d'avoir pris ce temps. Et puis, j'espère qu'on va ravir le public avec ce concert au monastère Sainte-Croix. En tout cas, très heureuse d'aller à la rencontre de ce public et puis de faire sonner ce beau lieu. Et merci d'avoir pris ce temps.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante pero sabroso. Yo soy que cuando la mujer al viento llorona parece que está llorando, que cuando la mujer al viento llorona parece que está llorando. Soñaba dormida,
llorona,
dormida,
dormida,
tú estabas quieta. Yo te soñaba dormida,
llorona,
dormida,
dormida,
tú estabas quieta. Pero llegando el olvido, llorona, soñé que estaba.
Vamos.